Les Années-Lumière, édition du 11 avril 2010. Les mines et l'écologie peuvent-elles faire bon ménage? Nous en avons débattu à Rouyn-Noranda lors du Bar des sciences Radio-Canada Québec Science. Bonjour, ici Yannick Villedieu, l'équipe. Bienvenue à cette nouvelle édition du magazine d'actualité et de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. Cette édition, elle va donc commencer avec vous, Hugues de Roussan, et avec une vraiment très vieille histoire.
Oui, une histoire de 4 milliards d'années. À l'époque, la Terre n'était pas gelée, même si le soleil chauffait beaucoup moins qu'aujourd'hui. Un paradoxe qui avait une explication, mais tout est remis en question depuis qu'on a découvert une très, très, très vieille pierre.
Sophie-André Blondin, si Hugues fait dans le très ancien, vous allez faire, vous, dans le très grand et le très lointain.
Et plus le temps passe, plus c'est grand et plus c'est lointain, parce que c'est confirmé, l'expansion de l'univers s'accélère.
Nous aurons ensuite le courrier des années-lumière, une question sur la longévité des animaux. Puis la chronique, Rachel Légère, cette semaine, nous parle de biomimétisme. Alors donc ça, c'est pour la première heure. Quant à notre deuxième heure, elle sera entièrement consacrée au bar des sciences sur l'exploitation minière. Un bar dans lequel nous avons discuté mines et environnement. Les unes sont-elles compatibles avec l'autre? Toute une heure de bonnes et de chaudes discussions, ça se passait, et je vous laisse l'interpréter comme vous le voulez, ça se passait au cabaret de la dernière chance. Alors, il y a 4 milliards d'années, l'eau des océans n'était pas gelée, même si à l'époque, le soleil chauffait 30% de moins qu'aujourd'hui. Un paradoxe que tentent de résoudre les scientifiques depuis 40 ans. La théorie la plus répandue voulait que ce soit en raison de la présence d'une grande concentration de gaz carbonique dans l'atmosphère, une concentration qui engendrait un effet de serre qui réchauffait la planète. Mais un article paru cette semaine dans la revue Nature, Hugues de Roussan, vient tout remettre en question et ça relance évidemment le débat.
Oui, Yannick, en 1972, le célèbre astronome Carl Sagan et son collègue George Mullen avaient émis la théorie selon laquelle, à cette époque, la concentration de gaz carbonique était 100 fois supérieure à celle qu'on connaît aujourd'hui, donc un effet de serre suffisamment important pour réchauffer la planète. Cette théorie a été remise en question par une équipe de géologues danois et américains qui ont analysé et étudié une vieille pierre de 3,8 milliards d'années qu'on a trouvée au Groenland. Les conclusions de l'équipe sont que le taux de gaz carbonique n'était en fait que de 3 fois supérieur à aujourd'hui, donc insuffisant pour compenser la faiblesse du soleil. Une pierre, Yannick, eh bien, c'est la parle. C'est peu le témoin de son histoire. En tout cas, c'est ce que nous dit Minik Rosing, qui est professeur de géologie à l'Université de Copenhague et qui a dirigé l'équipe américano-danoise qui a examiné cette fameuse pierre.
Our conclusion is that any old rock basically would have some memory of the conditions on the surface of Earth when it formed. And
les pierres conservent la mémoire des conditions qui existaient au moment de leur formation, tant au niveau géologique qu'atmosphérique. En examinant la pierre, on s'est aperçu qu'elle ne contenait pas beaucoup de gaz carbonique et que les minéraux qui la composaient ne pouvaient pas se former en présence d'une grande quantité de ce gaz. Il s'agit d'une pierre appelée fer rubané, caractérisée par des couches superposées de magnétite, une combinaison de fer et d'oxygène, de quartz et de sidérite, riches en carbone et en fer. C'est une roche sédimentaire qui se forme dans l'eau. Cette roche, c'est un précipité, c'est-à-dire que les minerais présents dans l'eau se déposent au fond, comme le ferait du sucre dans une tasse de thé qui serait réchauffée par les rayons du soleil. C'est un type de roche assez commun qu'on retrouve à toutes les époques et sur tous les continents actuels.
Donc, le professeur Minik Rosing.
Oui, Yannick, ce type de pierre est assez commun sur Terre, comme dit le professeur Rosing. On s'en sert aujourd'hui notamment pour faire de l'acier, mais ce n'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a jamais trouvé jusqu'à maintenant ce type de pierre aussi âgé et aussi en bon état.
Donc, s'il n'y avait pas d'effet de serre, comment est-ce qu'on peut s'expliquer que l'eau des océans ne soit pas gelée?
Pas de certitude, Yannick, mais deux explications possibles pour tenter de résoudre ce paradoxe. Des résultats qui d'ailleurs découlent des travaux de recherche de cette équipe américano-danoise. Alors, il y a l'importance des océans à cette époque lointaine et aussi la présence de nuages moins denses. On écoute à nouveau Minik Rosing.
What we have suggested is that Earth was able to absorb more of the heat from the sun simply because it was darker in the early days. The surface of Earth.
À cette époque, la Terre absorbait davantage de lumière qu'aujourd'hui. Pour une raison simple, la superficie des océans était plus grande et les océans qui sont de couleur foncée gardent davantage la chaleur du soleil que les continents qui sont plus clairs. Il est même possible qu'il n'y avait pas de terres émergées. L'autre possibilité, c'est que les nuages à cette époque étaient plus transparents que de nos jours. Les gouttelettes d'eau dans un nuage se forment autour de nucléus formés de particules provenant des plantes et des algues. Plus il y a de nucléus, plus le nuage est foncé, et plus il renvoie la lumière du soleil dans l'espace. C'est ce qu'on appelle l'effet albédo. Or, à cette époque, il n'y avait pas encore de plantes et d'algues. Les nuages étaient moins denses et plus transparents, laissant ainsi passer plus de lumière, ce qui avait pour conséquence de réchauffer la planète et de maintenir la température au-dessus du point de congélation.
Donc, le géologue danois Minik Rosing.
Oui, Yannick, et s'il y avait de la glace à cette époque, c'est probablement au pôle comme on en retrouve aujourd'hui.
Oui. Alors, à quoi ça pouvait ressembler notre planète à cette très lointaine époque, évidemment?
On pourrait penser à première vue qu'elle était très différente. Finalement, pas tant que ça, ce qui ne veut pas dire pour autant que l'atmosphère et l'environnement de l'époque nous conviendraient à nous, les humains, aujourd'hui. Ross Stevenson est géologue. Il est professeur au département des sciences de la Terre et de l'atmosphère à l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal.
Des roches et les océans, puis des lacs. Il y aurait une absence de végétation, il y aurait une absence de vie, il y aurait probablement des volcans qui se sautent de temps en temps d'une place ou ailleurs. Puis il y avait des océans salés, puis l'eau douce, des rivières qui chutent dans ces océans. Dans ce sens, pas tellement différent qu'aujourd'hui, sauf que les continents seront probablement plus petits. On parle des microcontinents en comparaison des continents qu'on voit aujourd'hui comme l'Amérique du Nord ou Australie ou quelque chose comme ça, beaucoup plus réduits en taille et la plupart de la surface de la Terre était couverte par l'eau des océans.
Et dans cette eau, qu'est-ce qu'on y retrouvait?
On trouve une absence de vie encore. Il n'y avait pas de poissons, il n'y avait pas des algues, il n'y avait pas de plancton, aucune vie. Peut-être le début de vie biologique, mais ça, c'est controversiel. À part de ça, il n'y avait rien, juste l'eau.
Donc, il n'y avait pas de vie, de vie telle qu'on la connaît aujourd'hui dans l'eau, non, ni de vie sur Terre?
Ni de vie sur Terre, non.
Est-ce qu'il y avait des activités volcaniques à cette époque?
Oui, certainement, il y avait des activités volcaniques, il y avait des volcans en plusieurs endroits du monde.
Est-ce que ces activités volcaniques contribuent à transformer la structure de la Terre ou la forme des continents?
C'est à cause de ces volcans, ils ont, avec temps, se ramassé pour former des petits noyaux des continents. Et à partir de ces petits noyaux, on a grandi des continents de plus en plus grands par le volcanisme épisodique en temps. On a évidence que le noyau de continents, ils ont commencé il y a 3,8 milliards d'années. On a des légères évidences pour la croûte, même avant 3,8 milliards d'années.
L'atmosphère, est-ce que ça ressemblait à ce qu'on retrouve aujourd'hui ou la composition était différente?
Il y avait des études qui indiquent que l'atmosphère de notre planète a changé deux ou trois fois depuis son conception. Il y avait une atmosphère primordiale héritée pendant la formation de la Terre, créée par la vaporisation des comètes et astéroïdes qui sont écrasés ensemble pour former notre planète. Puis cette atmosphère perdure à cause des vents solaires. Et après ça, il y avait une jeune atmosphère très pauvre en oxygène, mais petit peu par petit peu, la formation de la vie pendant des milliards d'années, il y avait une oxygénation de cette atmosphère et qui nous a conduit vers la présente atmosphère qui est oxygénée. À 3,8 milliards d'années, certainement l'atmosphère à cette époque était très pauvre en oxygène et pas capable de supporter la vie sur les continents et pour la plupart dans les océans.
Donc, ce qu'on vient d'entendre, là, pas de vie animale ou végétale comme on la connaît aujourd'hui, mais quand même peut-être de la vie, une forme de vie.
Oui, Yannick, la Terre a 4,5 milliards d'années. Les plus anciennes traces de vie sur Terre datent, elles, de 3,5 milliards. Et la pierre qu'on a trouvée au Groenland dans la ceinture d'Issua, c'est un peu plus vieux, 3,8 milliards. Alors, le professeur Minik Rosing croit quant à lui que déjà à cette époque, la vie avait déjà fait son apparition sur Terre. Ce sont notamment des indices qu'on a trouvés sur cette fameuse pierre qui lui font conclure que la vie est apparue un peu plus tôt qu'on ne le croyait.
Well, it's a very big question. Some people would say that there were no life at all. I have postulated in earlier papers that life was present, and I believe that life, it was...
C'est une question importante. Certains pensent qu'il n'y avait pas de vie à cette époque lointaine. Mais moi, je suis de ceux qui croient que la vie existait déjà sous une forme microbienne ou bactérienne, avec plusieurs caractéristiques qu'on retrouve aujourd'hui. Ce n'était pas la vie avec des animaux et des plantes, mais de la vie à un niveau assez évolué quand même. Sur la pierre qu'on a découverte, on a trouvé du carbone, qui provient d'organismes vivants. Ces organismes ont modifié l'environnement des océans par leur activité métabolique. Et pour avoir ce genre d'impact, il fallait que la vie soit relativement évoluée. On n'a pas trouvé de forme de vie proprement dite, pas de traces de microbes ou d'organismes primitifs, mais on a des preuves indirectes que la vie existait déjà. La présence du carbone en est une.
C'était le géologue Minik Rosing de l'Université de Copenhague. Merci beaucoup, Hugues de Roussin.
Merci.
André Bertrand, journaliste au site Internet des Années-Lumière. Je vous rappelle que votre magazine d'actualité et de culture scientifique est disponible sur le web à l'adresse radio-canada.ca/lumière et également en diffusion en direct sur Sirius et en flux MP3. Vous pouvez même emporter l'émission dans votre poche en vous abonnant à la balado-diffusion sur notre site Internet. Il n'y a plus d'excuses pour manquer les Années-Lumière avec Yannick Villedieu.
Les Années-Lumière, effectivement, une émission qui ratisse large parce que après l'origine de la vie, on va parler du destin de l'univers.
On prend
les grandes questions.
Oui, oui,
c'est ça. Alors, une équipe, effectivement, a réussi à confirmer ce que l'on soupçonne quand même depuis 10-12 ans, 1998. L'expansion de notre univers s'accélère. C'est avec le télescope spatial Hubble que des chercheurs ont pu faire leurs observations, Sophie.
Oui, et la démonstration qu'ils en tirent fait l'objet d'une publication dans la revue Astronomy and Astrophysics. Ludovic von Verbecke est astronome à l'Université de la Colombie-Britannique à Vancouver. Il fait partie de cette équipe. Il nous explique la découverte.
C'est une découverte importante dans le sens où on sait depuis très longtemps, depuis à peu près 80 ans que l'univers est en expansion. On sait seulement depuis très récemment, depuis 10 ans à peu près, que l'expansion s'accélère. Et la découverte qu'on a faite confirme en fait cette accélération qui a été observée pour la première fois il y a une dizaine d'années.
Comment avez-vous procédé ?
Alors, notre découverte est basée sur des observations faites par le télescope spatial de Hubble. On a travaillé sur des données qui ont été prises par le télescope spatial. C'est un grand relevé de galaxies qui a nécessité plusieurs centaines d'orbites du télescope spatial, un peu plus de 500 orbites. Et ce qu'on a regardé, c'est comment la matière noire est distribuée dans l'univers et comment la matière noire s'étire avec l'expansion dans l'univers. Et c'est cet étirement qu'on a mesuré et c'est à partir de la mesure de cet étirement qu'on en a déduit que l'expansion de l'univers, en fait, s'accélère.
Observer la matière noire, ça peut sembler un peu difficile et un peu abstrait pour nous. Comment est-ce qu'on fait ça?
Oui, tout à fait. C'est une question qui revient régulièrement. Les étudiants me disent, mais comment vous pouvez observer quelque chose de noir? On ne le voit pas puisque c'est noir. Donc en fait, on a recours à une technique qu'on appelle les lentilles gravitationnelles. L'idée, c'est... la matière noire, évidemment, est noire. On ne la voit pas. Elle émet aucune lumière. C'est impossible de la voir directement. Mais cette matière est massive. Elle a un poids. Et à cause de sa masse, elle affecte la structure de l'espace-temps autour d'elle. C'est un effet qui avait été prédit par Einstein il y a 90 ans de ça. Et l'effet qu'on utilise pour détecter et mesurer la présence de cette matière noire, c'est la déformation de la lumière qui nous provient des galaxies très très lointaines. Cette lumière se déplace dans l'espace-temps qui est courbé par la matière noire. Et cette déformation de la lumière qui nous vient des galaxies lointaines nous permet de mesurer assez précisément la quantité de matière qui a causé cette déformation. Donc on ne voit pas la matière noire directement, on la voit à travers cet effet de lentille gravitationnelle. C'est un peu comme une lentille déformante, si vous voulez. Si vous regardez le monde autour de vous à travers une vitre déformante, la forme des choses vont être modifiées, et c'est cette modification qui nous permet d'en déduire où est la matière noire et quelle quantité de matière noire il y a dans l'univers.
Combien de galaxies avez-vous observées pour pouvoir en venir à ces conclusions?
Dans ce relevé de galaxies, on a utilisé un petit million de galaxies, un peu moins de 500 000 galaxies. Et le relevé lui-même est très petit, enfin il est relativement petit par rapport à l'ensemble du ciel. La zone qu'on a observée est à peine plus grande que 8 fois la taille de la Lune sur le ciel. C'est tout petit quand on considère la taille du ciel. C'est vraiment tout petit.
Tout petit, effectivement. Bah quoi, un million de galaxies?
Un petit million.
Un petit million, bon, il n'y a rien là. Hein. Pour comprendre cette confirmation de l'accélération de l'expansion de l'univers, il faut regarder vraiment, avoir des très grandes lunettes, regarder large, un univers qui se dilate de plus en plus vite, sa matière noire qui s'étire par le fait même, qui déforme l'espace-temps, comme l'avait prédit un certain Albert...
Einstein?
Ah, mais oui!
Ah, oui, c'est lui. Ça fait beaucoup de notions, on va les prendre morceau par morceau, si vous voulez. L'univers se dilate, ça, on le savait, il prend de l'expansion.
Oui.
Mais depuis moins de 2 milliards d'années, c'était hier, c'est tout récent, cette expansion, elle s'accélère, et cette accélération, elle serait causée par l'énergie noire. Qu'est-ce que l'énergie noire? C'est un des trois ingrédients fondamentaux de notre univers. C'est quoi les trois ingrédients? Il y a la matière ordinaire qui nous constitue, nous, les étoiles, les planètes, tout ce qui se voit.
Horriblement banal.
Moi, la matière ordinaire est faite de protons, de neutrons, par exemple. Et localement, autour de nous, il y a plus de matière ordinaire que des autres ingrédients fondamentaux, croit-on. Il y a aussi, par contre, autre chose, c'est la matière noire, qu'elle, on ne la voit pas, mais qui, à l'échelle de l'univers, est 4 à 5 fois plus importante que la matière ordinaire. Ça, c'est en termes de masse. Ça, c'est le deuxième ingrédient. Troisième ingrédient fondamental, celui qui est présent en encore plus grande proportion, l'énergie noire. On ne la connaît pas, on ne la comprend pas vraiment, d'où ce nom, énergie noire, qui reflète finalement notre ignorance à son sujet. Mais elle agit comme une sorte d'antigravité dans notre univers. Elle force les morceaux de notre univers à s'éloigner les uns des autres. Elle cause l'accélération de l'expansion de l'univers. À nouveau, Ludovic von Verbeke.
On sait que l'univers est en expansion. Le Big Bang, la théorie du Big Bang, quelque part ne prédit pas cette expansion. L'expansion, elle est donnée au départ. Et la gravité a pour effet de la ralentir. Et si on n'avait que de la matière ordinaire et matière noire dans l'univers, si on attend suffisamment longtemps, l'expansion de l'univers ralentirait, puis éventuellement pourrait se stopper un jour si on attend vraiment très 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 longtemps. L'énergie noire a l'effet inverse, effectivement. L'énergie noire se comporte comme une sorte d'antigravité et elle a tendance à s'opposer à la gravité, elle a tendance à faire que les choses se repoussent. Et plus l'univers vieillit, plus cette énergie noire prend d'importance et plus l'expansion de l'univers s'accélère. On est vraiment dans cette phase, c'est très intéressant. L'accélération de l'expansion de l'univers a démarré il y a à peu près 1-2 milliards d'années. Donc en fait, la Terre était déjà formée, la Terre existe depuis 5 milliards d'années. Donc il y a 1 ou 2 milliards d'années, l'accélération a commencé. Donc on est vraiment au début de cette phase d'accélération.
J'aimerais revenir sur le lien entre vos découvertes et les théories d'Einstein. Est-ce que vous conforter ce qu'Einstein avait prédit? Est-ce qu'avec l'observation, on se rend compte que le cerveau d'Einstein avait imaginé juste?
Oui, en fait, c'est assez fascinant. La relativité générale, qui est la théorie qui décrit le comportement de l'univers dans son ensemble, c'est une théorie très générale. En fait, elle est tellement générale qu'elle a plein de solutions mathématiques possibles. Et il se trouve que nous, on vit dans un seul univers. Donc la question, pendant très longtemps, pendant des décennies, les astronomes ont essayé de savoir mais notre univers, à quelle solution mathématique de la relativité générale correspond-il ? Donc ça a pris des décennies, c'est des observations très longues et très difficiles. Et il se trouve que Einstein, au tout début, avait prédit l'existence théorique mathématique de l'énergie noire. Il ne l'avait pas appelé comme ça à l'époque, il l'avait appelé la constante cosmologique, et il l'avait, comment dire, introduite dans ses équations pour des raisons qui sont discutables. En fait, il avait introduit ce concept d'énergie noire dans ses équations pour forcer l'univers à être statique et à ne pas évoluer avec le temps. C'est en fait une sorte d'anti-énergie noire qu'il avait introduit dans ses équations. Il avait tort, il n'y a pas d'anti-énergie noire dans l'univers. En fait, il avait tort sur la forme, mais il n'avait pas tort sur le fond. Il y a effectivement dans l'univers quelque chose qui se comporte sous forme d'énergie noire, mais qui s'oppose à la gravité et qui accélère l'expansion. Donc c'est vraiment intéressant de voir comment, il y a 90 ans, un chercheur de génie comme Albert Einstein avait vraiment mis sur la table toute la théorie qui permette d'expliquer l'univers, et qu'il a fallu des décennies et des décennies pour finalement arriver à comprendre dans quel univers on vit.
Ce qui est une quand même bonne question. Ludovic Van Verbeke de l'Université de la Colombie-Britannique à Vancouver, qui nous dit donc que tonton Einstein avait raison, mais pas pour les bonnes raisons.
Non, pour des mauvaises raisons, Einstein oui. avait raison. Et lorsque l'astronome Edwin Hubble a démontré en 1929 que finalement l'univers n'était pas fixe, qu'il était en expansion, Einstein a compris qu'il aurait dû faire confiance à ses propres calculs finalement dès le départ. Alors si vous voulez, maintenant on change de siècle, on revient en 2010, grâce aux observations du télescope, nommé d'ailleurs en l'honneur de ce même Edwin Hubble, le télescope spatial Hubble, on vient d'avoir une troisième démonstration de l'accélération de l'expansion de l'univers. Les explications sur ces trois démonstrations avec Robert Lamontagne, astronome à l'Université de Montréal.
Les premières mesures qui démontraient que l'univers semblait être en expansion accélérée remontent à 1998 et étaient basées sur une technique qui mesurait la brillance d'étoiles qui explosent, qu'on appelle des supernovas de type 1. On fait l'hypothèse, quand on observe ces étoiles qui explosent, que chaque fois qu'il y a une supernova de type 1, l'explosion a la même brillance. Et donc, si l'explosion nous paraît forte, très lumineuse, l'explosion a eu lieu proche de nous. Si elle apparaît faible, elle a dû avoir lieu très loin. De cette façon, on était capable de calibrer la distance des objets, comparer ça avec leur vitesse, et ces mesures indiquaient que l'univers semblait être en accélération. C'était assez spectaculaire comme découverte, mais il y avait quand même de nombreuses critiques, parce qu'on faisait là-dedans l'hypothèse que toutes les supernovas de type 1 sont des explosions équivalentes. Donc, c'est comme si c'était toutes des ampoules de 100 watts. Quelques années plus tard, on a eu une deuxième confirmation par une technique totalement indépendante qui s'appuie sur le bruit de fond de l'univers. Alors, le satellite WMAP a mesuré la façon dont le bruit de fond de l'univers est distribué dans notre univers. On mesure les faibles fluctuations ou inhomogénéités de ce bruit de fond. Et la seule façon de réconcilier nos modèles avec la distribution observée de ces inhomogénéités, c'est de supposer que l'univers non seulement est en expansion, mais que l'expansion accélère et qu'il y a une contribution qui vient de ce qu'on appelle l'énergie sombre. La publication parue dans l'article publié récemment est une autre expérience qui vient corroborer, une troisième voie finalement, qui vient corroborer qu'effectivement l'expansion se fait de façon accélérée. Alors même si chacune des expériences individuellement peut être sujette à des critiques, le fait que les trois expériences qui sont totalement différentes arrivent toutes au même résultat, ça confirme de façon non équivoque que l'univers est en expansion et que l'expansion se fait à un rythme accéléré.
Bon, une chose de régler, hein? C'était Robert Lamontagne, donc, astronome à l'Université de Montréal.
Une chose de régler, de démontrer, oui. Mais il reste bien des questions, Yannick. Cette énergie noire, par exemple, qui force l'accélération de l'expansion de l'univers, on ne sait rien sur elle. Et puis la matière noire dont on induit qu'elle est là, mais on ne l'a toujours pas vue, toujours pas caractérisée. Mais pour répondre à cette dernière question, par exemple, sur la matière noire, il y a deux communautés scientifiques en ce moment qui regardent dans des endroits très différents. Les astrophysiciens, comme Ludovic Van Verbeke, ont les yeux rivés sur les galaxies lointaines à travers des télescopes ou des télescopes spatiaux. Les physiciens des particules, eux, regardent sous Terre.
En ce qui concerne la matière noire, les astrophysiciens voient l'effet de la matière noire tous les jours parce qu'elle est massive, donc on voit vraiment ses effets gravitationnels assez facilement. Mais on ne sait absolument pas qu'est-ce qui constitue la matière noire. On n'en a aucune idée. On n'a jamais pu piéger la matière noire dans une boîte ou la prendre entre les mains. Enfin, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas toucher. Donc la question fondamentale qui se pose, c'est bien, mais qu'est-ce donc que la matière noire? Et là, les physiciens ont toutes sortes de réponses à faire. Les physiciens des particules, une majorité d'entre eux, pensent que la matière noire est faite de particules massives qui n'ont pas encore été détectées à ce jour, qui seraient partout dans l'univers. Et leur espoir, c'est de pouvoir éventuellement recréer artificiellement ces particules de matière noire, si elles existent, dans les nouveaux accélérateurs de particules super puissants comme le LHC au CERN à Genève. Et s'ils y arrivent, c'est fabuleux, on aura vraiment établi un lien entre l'univers à grande échelle et les lois qui régissent la nature à très petite échelle. On aura établi un lien entre la relativité générale qui nous décrit vraiment l'univers, la structure de l'espace-temps dans son ensemble, avec les lois de la mécanique quantique qui régissent la physique à très 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 petite échelle. Et l'espoir, c'est que je pense que je ne prends pas un pari trop risqué en disant que d'ici 10 ans, on saura définitivement si vraiment la matière noire est faite de nouvelles particules ou pas. Je pense que 10 ans, c'est à peu près raisonnable. C'est l'espoir qu'on a tous à peu près.
L'astronome Ludovic van Verbeke, que vous allez inviter dans d'ici une dizaine d'années, Sophie,
pour voir
à l'émission.
Si tout ça s'est confirmé, absolument. Oui, il y a des ondes de flou, on le sait, dans la boule de cristal pour le court terme. Mais à plus longue échelle, à beaucoup plus longue échelle, la science semble avoir une bonne idée de ce que nous réserve la suite de l'histoire de notre univers. Où va-t-il comme ça de plus en plus vite? La réponse est sombre, très sombre, et froide, très froide.
Nous vivons à une époque privilégiée dans l'histoire de l'univers où on est capable de voir d'autres galaxies, de voir d'autres groupes de galaxies, mais pas probablement que nos descendants très lointains vivront dans un univers qui, d'une certaine façon assez ironique, ressemblera à celui qu'Einstein croyait être, c'est-à-dire une seule galaxie qui est l'univers, parce que toutes les autres seront tellement loin qu'on ne les verra plus de toute façon.
Très probablement, ça nous mène vers un univers, donc dans très très longtemps, on est en train de parler de à quoi ressemblera l'univers dans, je ne sais pas, 100 milliards d'années par exemple, 200 milliards d'années. Dans cet univers-là, il n'y aura plus d'étoiles. La plupart des étoiles seront éteintes depuis très longtemps. Il y aura certainement beaucoup de trous noirs un peu partout. Les galaxies ne seront plus des galaxies d'étoiles, puisqu'il n'y aura plus d'étoiles. Ce sera des agglomérations de trous noirs qu'on ne pourra pas voir. De toute façon, nous n'existerons plus dans ce futur très lointain. Et l'univers visible sera extrêmement grand à cause de l'accélération, mais il n'y aura plus rien à voir. Donc il sera très grand, il n'y aura rien à voir et il sera très très froid. Ce n'est pas une perspective très réjouissante.
Aussi bien de profiter de l'instant présent, finalement.
La vue est plus intéressante actuellement, oui.
Et oui, comme dit Robert Lamontagne, qu'on vient d'entendre, profitons de la vue. Aucune vue n'est imprenable, hein, Sophie André.
Saisissons-la pendant qu'elle est là.
C'est ça, et Robert Lamontagne était précédé d'un autre astronome, Ludovic van Verbeke. Merci beaucoup.
Merci.
Vous écoutez Les Années-Lumière, le magazine d'actualité de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. Venir en deuxième heure, le bar des sciences Radio-Canada Québec Science sur l'écologie et l'exploitation minière.
Moi, j'aimerais qu'on se pose la question de l'utilité de la mine par rapport à son impact. Qu'on creuse, qu'on fasse des trous pour aller chercher du nickel ou du cuivre, ça va, même s'il y a beaucoup d'impact, mais qu'on fasse des trous énormes de 1 puis 2 kilomètres pour aller chercher de l'or, pour faire servir des talons à la monnaie ou faire des bijoux. Et puis et là, il y a le projet Cisco, mais il y a d'autres projets ici à l'Abitibi. Est-ce qu'on va avoir plusieurs trous comme ça pour faire des bijoux en or?
Bonne question et l'une des questions qu'on va poser donc en deuxième heure. Cela dit, comment se fait-il qu'on n'arrive pas à prolonger la vie des chiens? C'est le moment du courrier des auditeurs. La question donc de cette semaine porte sur la durée de vie de ces animaux qu'on n'arrive pas à prolonger.
Les hommes vivent avec les chiens depuis des millénaires et ils ont appris depuis longtemps à sélectionner les races ce que je sais aussi, c'est que les chiens, notamment les chiens de race, ça vit à peu près 12-13 ans. Alors, comment ça se fait que les hommes n'ont pas réussi à développer des chiens qui vivraient, mettons, 25 ans au lieu de 12 ou 13 ans? Ça semble pas possible. Pourquoi?
Bonne question, hein? Et pour y répondre, Hugues de Roussan a joint Cyril Barrette, qui est professeur à la retraite du département de biologie de l'Université Laval à Québec.
Que ce soit par sélection naturelle ou par sélection artificielle, dans tous les cas, pour pouvoir modifier ou améliorer un caractère, que ce soit la taille, la couleur du pelage ou la longévité, il faut d'abord que la variabilité génétique pour ce caractère existe dans la population qui est soumise à la sélection, c'est-à-dire des différences entre les individus. De la même façon qu'il y a des différences anatomiques ou physiologiques entre les individus, ces différences correspondent à des différences au niveau des gènes, donc des individus qui ont des caractéristiques génétiques légèrement différentes les uns des autres. Il faut que la variabilité soit là pour que la sélection puisse exploiter cette variabilité pour modifier un caractère.
Comment on procède dans les faits?
Dans les faits, par sélection artificielle, on procède par croisement. On va choisir un mâle et une femelle qui possèdent au mieux les caractéristiques que l'on cherche. On les fait s'accoupler entre eux et on s'attend à ce que dans la descendance, il y ait une proportion acceptable ou plus élevée d'individus qui possèdent ce nouveau caractère à un certain degré. Et puis ensuite, on fait de nouveau se reproduire entre eux ces individus qu'on a d'une première génération, dans une deuxième génération, etc. Et avec les générations, si la variabilité génétique est là, on peut arriver, à l'intérieur de certaines limites, évidemment, à modifier le caractère.
À installer pour de bon un caractère précis.
Oui, c'est ça. Et puis, à la limite, on peut arriver à produire une race, disons, dans le cas des animaux domestiques, une race où le caractère, comme on dit dans le jargon de la génétique, le caractère est fixé. C'est-à-dire que là, tous les individus sont identiques pour ce caractère. Ils ont tous les mêmes gènes pour ce caractère. Donc, à partir de ce moment, on ne peut plus faire de sélection. On ne peut plus le modifier puisque, littéralement, tout le monde est pareil, donc on ne peut plus sélectionner.
Bon, ça marche, disons, pour avoir un chien à poils longs et beige. Pourquoi ça ne marche pas pour la durée de vie?
Alors, si ça marche pas pour la longévité, la durée de vie, c'est que l'hypothèse la plus plausible, c'est que soit chez les loups qu'on a commencé à domestiquer il y a à peu près 12 ou 15 000 ans, la variabilité génétique pour la longévité n'y était plus ou n'y était pas du tout, ou elle y était en partie et la sélection l'avait presque éliminée. Et on peut comprendre que pour la longévité, la pression de sélection va être très forte parce que c'est évident que pour un individu, mourir jeune, c'est pas très avantageux pour le succès reproducteur de sa vie entière. Mm-hmm. Donc, la sélection pour la longévité est très, très forte, ce qui fait qu'il y avait probablement très, très peu de variabilité pour la longévité. Et on présume que la sélection dans le passé a favorisé les individus qui vivaient le plus longtemps, étant donné les limites de la physiologie, de la biomécanique, etc., du fonctionnement du muscle cardiaque et du cerveau. La sélection a favorisé les individus qui vivent le plus longtemps, étant donné les limites physiologiques.
Donc, en fait, la sélection naturelle a favorisé les individus, dont on va parler des chiens, là, qui vivaient 12 à 14 ans, et c'est en fait un gène qui était fixé.
C'est comme si ce caractère-là, pour la longévité, était rendu à son maximum possible, étant donné la physiologie de l'animal, étant donné les capacités physiques, anatomiques, physiologiques de l'espèce. La longévité est déjà rendue à un plafond qu'on ne peut plus dépasser.
Pour cette espèce précise?
Oui, pour cette espèce. Oui. D'une espèce à l'autre, les choses varient. Si, pour illustrer la situation, si on revient à la taille corporelle, on voit qu'on a réussi à sélectionner pour une grande diversité de tailles chez les chiens, mais pas pour le chat domestique. Alors, on présume que chez les chats domestiques, on n'arrive pas à produire des chats d'une grande variété de tailles parce que la variabilité génétique pour la taille chez le chat domestique n'est plus là. Et dans le cas de la longévité, bien, en fait, c'est exactement la situation du chien. C'est comme celle de la plupart des espèces, probablement, y compris notre propre espèce, parce que si on note, chez notre espèce, on a amélioré considérablement l'espérance de vie au cours des 100 dernières années par l'amélioration de l'alimentation, de la médecine, de l'hygiène, etc. Donc, on a amélioré, on a augmenté l'âge moyen à la mort, mais on n'a pas augmenté la longévité maximale. Les gens, il y a 100 ans ou il y a 200 ans, les plus âgés mouraient autour de 100 ans, comme aujourd'hui. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus de gens qui se rendent jusqu'à cet âge-là, mais la longévité maximale, chez l'humain comme chez le chien, a déjà atteint un plafond et on ne peut pas l'améliorer.
Donc, pour les êtres humains, c'est parce qu'on a amélioré les conditions extérieures qu'on vit plus vieux et non pas parce qu'on a changé la génétique même.
Il ne faut pas confondre l'espérance de vie, qui est à peu près l'âge moyen à la mort dans une population, qui a augmenté d'à peu près 45 ans jusqu'à 80 ans, par exemple, ici. Il ne faut pas confondre cet âge moyen à la mort avec la longévité maximale. Le seul espoir qu'on pourrait envisager pour améliorer la longévité chez les chiens ou chez l'humain, ce serait de modifier les gènes par génie génétique, autrement dit de faire du chien domestique ou de l'humain un OGM. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, là, mais si on ne modifie pas les gènes, si on n'introduit pas de nouveaux gènes ou si on n'introduit pas comme artificiellement des mutations, on ne pourra pas changer la longévité.
Ce que vous me dites, c'est qu'à moins d'aller au niveau génétique, de travailler sur le gène lui-même, un éleveur, par exemple, par les méthodes traditionnelles, ne pourrait pas fixer un nouveau gène ou de nouveaux gènes qui permettraient une plus grande longévité.
S'il y avait encore chez les chiens domestiques une variabilité qui permet de produire des chiens beaucoup plus âgés, qui meurent à 25 ans, à 30 ans, étant donné les efforts de sélection qu'on fait depuis des milliers d'années avec le chien domestique, on aurait réussi à le faire. Si on n'a pas réussi, c'est un indice très fort que la variabilité génétique n'est pas là. Le caractère a atteint la valeur maximale qui lui est possible.
Est-ce que cette fixation de l'âge vient du temps où le chien était encore un loup, il n'avait pas encore muté pour devenir un chien?
Si on regarde chez toutes les espèces sauvages, là, il y a une limite très, très forte à la longévité. Il y a très peu d'individus qui dépassent l'âge moyen de mortalité parce que, justement, la sélection est très forte. C'est-à-dire que pour un individu, mourir trop jeune, ça réduit considérablement le succès reproducteur de sa vie entière. Et comme c'est le seul critère de succès en termes darwinien, bien, la sélection est très forte pour faire en sorte que des individus ne meurent pas jeunes. Donc, il y a une sélection qui fait en sorte que les individus vivent aussi longtemps que la physiologie le permet, la physiologie de cette espèce.
Pour assurer la descendance des gènes de chaque individu.
C'est ça. Ce qui compte pour chaque individu, c'est de maximiser la présence de ces gènes dans la génération suivante. Et pour ça, un des critères les plus importants, c'est de vivre le plus vieux possible.
Monsieur Barrette, je vous remercie beaucoup.
Bien, je vous remercie.
Hugues de Roussan s'entretenait avec Cyril Barrette, biologiste à l'Université Laval. Ça dit, si vous avez vous aussi des questions de science, vous pouvez nous les poser par téléphone ou alors, mais ce n'est pas notre premier choix, par courriel. Alors, par téléphone, vous composez de la région de Montréal le 514-597-6166. D'ailleurs, au pays, vous faites sans frais le 1-800-752-9050. Puis donc, le courriel lumière@radio-canada.ca. La chronique des années-lumière avec Rachel Légère, directrice du Biodôme de Montréal. Bonjour Rachel.
Bonjour Yannick.
Pour parler cette semaine, non pas de nature comme vous le faites d'habitude, mais d'imitation de la nature.
Hein, c'est ça.
De biomimétisme, pour dire le mot. Qu'est-ce que c'est que ça?
Ben, biomimétisme, son nom le dit. C'est l'imitation, la mime de la nature. Donc
oui.
C'est comment aller chercher des idées en nature, observer la nature pour pouvoir les imiter et les appliquer en technologie, les appliquer pour nous, essayer de mieux comprendre pour arriver à les imiter comme il faut.
Et il y a quelqu'un que vous admirez beaucoup qui est vraiment la personne qui a mis cette idée-là de biomimétisme sur la carte, on peut dire. Hein?
Oui, c'est une biologiste américaine qui s'appelle Janine Benyus, qui a vraiment... C'est la gourou du biomimétisme. Mm-hmm. Quand on tape ce mot-là sur Google, c'est vraiment elle qui ressort la personne. Elle a publié un livre qui s'appelle Biomimicry, Innovation Inspired by Nature, donc l'innovation inspirée de la nature. Elle a donné des centaines de conférences qui sont extraordinaires. Donc, elle donne des idées, comment finalement aller chercher des idées dans la nature. Elle demande aux biologistes, aux ingénieurs de travailler ensemble pour essayer de moins être demandants sur notre planète et regarder ce que la nature fait peut-être le faire à moindre coût que ce que nous, on fait comme innovation.
Parce que c'est quand même d'abord une vieille idée. L'homme, l'humain, depuis très longtemps, imite la nature, cherche à imiter la nature ou se dit qu'en imitant la nature, peut-être qu'on pourrait faire des... Par exemple, avoir des ailes comme Icare.
C'est ça. Les premiers exemples, c'est vraiment ça. En regardant les oiseaux, comment nous, est-ce qu'on pourrait voler? On ne vole pas nous-mêmes comme humains, mais on s'est trouvé des moyens de pouvoir voler. Ce n'est pas vraiment une science. C'est un modèle qu'on essaie d'appliquer pour trouver des façons d'imiter la nature.
Et qu'est-ce qui intéresse des gens comme Jeannine Benyus? Qu'est-ce qui les intéresse dans la nature? Qu'est-ce qu'ils ont remarqué comme, j'allais dire, comme loi de la nature, j'imagine? Oui.
C'est ça. À force d'observer plusieurs écologistes et biologistes, en observant toutes ces façons de faire de la nature, ils ont trouvé des grands principes, des grandes lois qui se retrouvent un peu partout sur Terre.
Alors...
Et ils ont fait une liste. La nature fonctionne à l'énergie solaire. Ça commence, ça va bien. Et elle n'utilise seulement que l'énergie dont elle a besoin. Ça semble un peu anthropomorphique, mais vous allez voir que ça se tient quand même. Elle adapte la forme à la fonction. Donc, selon ce qu'elle veut faire, la forme de l'animal ou de la plante va avoir... Elle recycle tout, récompense la coopération, la nature capitalise sur la diversité, elle recherche l'expertise locale, donc elle ne va pas aller chercher ailleurs parce qu'elle a besoin, ne fait pas d'excès et utilise ses limites pour stimuler sa créativité.
Quelle vertu!
Donc, depuis 3,8 milliards d'années, la vie s'est répandue partout sur Terre en tenant compte de ces principes. Et si nous, on pouvait faire ça aussi, ben, dans quelques centaines de millions d'années, milliards d'années, on serait peut-être encore là, si la Terre est encore,
est encore là, bien sûr. Vivable, n'est-ce pas? Des exemples de cette plus moderne maintenant.
Plus moderne. Oui. Un qui existe depuis 1948, le Velcro. Ça a l'air assez simple, le Velcro, aujourd'hui, mais le Velcro viendrait de là encore, un scientifique qui était en nature et qui est revenu avec de la bardane partout sur ses vêtements, ce qu'on appelle les toques ou les piquants cette fleur de bardane. Et quand on regarde comme il faut cette boule avec les piquants, chacun finit par un petit crochet. Et il a examiné ça, il a eu l'idée...
De faire
quelque chose qui adhère et se décolle.
Faire du Velcro.
Donc, Velcro vient de velours et crochet, les deux.
Ça veut dire ce que ça veut dire. Autre exemple?
Autre exemple, on pourrait parler de l'effet lotus. Là encore, la fleur de lotus qui a des propriétés super hydrophonie, donc qui repousse l'eau, donc pour des fenêtres ou des parois auto-nettoyantes.
Ah oui!
L'eau en s'écoulant amène la saleté. Donc, là encore,
des idées
de nature. Les turboréacteurs qui se sont inspirés de la spirale du Nautilus. Donc, des idées comme ça, il y en a plein. La thermitière qui est capable de finalement contrôler sa température interne, qui résiste aux grands vents, aux pluies tropicales.
Donc, pour l'habitat, ça serait bien.
Pour l'habitat, c'est ça. On regarde ça aussi. Donc, il y a toutes sortes d'exemples comme ça qui sont pigés dans la nature.
Alors, un petit mot en terminant sur votre idole, avez-vous dit, Jeannine Benyus. Donc, elle dit qu'elle fait des conférences, Terra, elle a publié un livre. Alors, j'imagine, elle est moderne, un site internet qui marche énergie solaire, sans doute.
Oui, sûrement. Oui, son site s'appelle asknature.org.
Oui.
Et là-dessus, il y a même une version française. Et on peut aller voir là-dessus, quand on cherche des idées, c'est par thématique, on peut aller voir des idées ou on peut encore aller en ligne mettre des idées qui peuvent être développées. Il y en a une d'ailleurs très récente sur le bec du calmar qui est à la fois rigide et souple, qui pourrait peut-être, la chitine pourrait peut-être remplacer les prothèses là, qui sont en métal pour les hanches. Donc, qui a un peu la propriété du cartilage et la propriété de l'os. Donc, à la fois souple et rigide. Donc, il y a toutes sortes, il reste du travail à faire, mais il y a toutes sortes d'idées comme ça. Ce site-là est incroyable. Il y a des idées absolument hors de ce monde, mais il y en a qui valent la peine.
Comme quoi, toutes les choses, tous les modèles sont dans la nature. Il suffit de les regarder.
Il suffit d'observer. Plus que regarder, il faut observer comme il faut et prendre le temps de regarder de près.
Rachel Légère, je vous remercie beaucoup.
Ça me fait plaisir.
Ce soir, à la télévision de Radio-Canada, 18h30, c'est Découverte qui continue la diffusion de sa grande série Terre, la grande aventure de la vie. Donc l'épisode de ce soir, le quatrième, porte sur les poissons. Ça, c'est à la télé de Radio-Canada. Mais pour l'instant, vous êtes et vous restez à la radio de Radio-Canada pour les nouvelles et pour la deuxième heure des années-lumière. Je vous emmène à Rouyn-Noranda, en Abitibi, au cabaret de la dernière chance. Les années-lumière, deuxième heure. Rebonjour, rebienvenue, Yannick Villedieu, toujours au microphone du magazine d'actualité et de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. Alors cette deuxième heure, elle est entièrement consacrée à un sujet, les mines et l'environnement, et elle nous provient d'un pays dur comme de la roche, l'Abitibi. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du Bar des sciences Radio-Canada Québec Science, une édition qui est une première parce que nous sommes à Rouyn-Noranda, au cabaret de la dernière chance, d'ailleurs que nous remercions chaleureusement pour son accueil, comme nous remercions notre partenaire, le Consulat général de France, bureau de Montréal. Alors pourquoi sommes-nous ici pour ce Bar des sciences? Eh bien, parce que notre sujet de discussion est un sujet bien d'ici, un sujet bien ancré dans la réalité régionale, les mines. Et la question qu'on pose ce soir, c'est est-ce que l'exploitation minière peut être écologique? Grande question, effectivement. Alors, comme d'habitude, nous avons ici des invités, des personnes ressources. Bruno Bussière, ingénieur minier, professeur à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, titulaire de la chaire de recherche du Canada. Écoutez bien, sur la restauration des sites miniers abandonnés. C'est déjà toute une partie de la discussion qui peut se poser avec vous, Monsieur Bussière. Ensuite, Jacinthe Châteauvert, qui est présidente du Conseil régional de l'environnement. Ici, le biologiste Jean-François Doyon, de la compagnie Agnico Eagle, qui est responsable du développement durable à cette compagnie. Monsieur Doyon. Et venu de France, Christophe Monin, directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique français. Il est au laboratoire des mécanismes de transfert en géologie à l'université Paul Sabatier à Toulouse, dans le sud de la France. Monsieur Monin. Alors donc, comme d'habitude également, on va commencer par un petit tour de table. Et je donnerai la parole d'abord au représentant de l'industrie d'une certaine façon, monsieur Jean-François Doyon, donc. Est-ce que effectivement votre industrie, l'industrie que vous représentez, peut faire une exploitation écologique?
Je vous dirais, pour répondre à la question, il faut commencer par la base, c'est-à-dire la définition de l'écologie. C'est que l'écologie, c'est quoi? C'est la science qui étudie les êtres vivants et les relations qu'ils ont avec leur milieu. Et moi, je peux vous dire que chez Agnico Eagle, on a une conscience écologique, en ce sens qu'on développe et exploite des projets de façon à limiter les effets sur les êtres vivants, leur milieu et les interactions qu'ils ont avec leur milieu. Et ça, comment ça se fait concrètement? C'est qu'à l'étape de développement d'un projet, avant même de développer le projet, avant même la conception, on doit faire différentes études et évaluations pour caractériser le milieu biophysique et le milieu social. Et une fois qu'on a cette information-là en main, on est capable d'identifier les éléments sensibles et la valeur, s'il y a une valeur particulière associée à un des éléments. Et une fois qu'on a ça, on regarde le gisement. On regarde ses caractéristiques et s'il y a des effets qui peuvent arriver sur ces composantes-là. Et c'est à ce moment-là qu'on choisit des méthodes d'exploitation, des méthodes de gestion et des procédés de traitement qui sont très performants pour réduire nos impacts sur l'environnement.
Mais quand vous dites réduire les impacts sur l'environnement, est-ce que vous voulez réduire beaucoup, un peu, passionnément, à la folie, pas du tout?
Je vais illustrer mes propos par des exemples concrets qui vont vous démontrer jusqu'où on peut aller maintenant avec les nouvelles façons de faire. Par exemple, à la mine Goldex, on a fait un chevalement qui n'a pas de pattes pour ne pas affecter le ruisseau qui est à proximité du site. On a mis un dôme pour couvrir les piles de minerais pour éviter les émissions de poussière pour les voisins, étant donné que c'est une mine en milieu urbain. À la division Lapa, on a construit une mine, mais on a décidé de ne pas mettre le concentrateur ni le parc à risque du minier. Étant donné qu'on était assez proche de la mine La Ronde, on a décidé d'envoyer notre minerai pour utiliser les infrastructures existantes. Donc, on a évité de construire une nouvelle usine, on a évité de déboiser des superficies additionnelles vierges. Et en plus, la pile de stérile qu'on voit de la 117, elle va tout être retournée sous terre pour embellir le chantier, étant donné qu'on n'a pas d'usine de traitement du minerai. On diminue de beaucoup notre empreinte, et c'est la même chose à La Ronde aussi. aussi. Ils réutilisent l'eau à partir de différents bassins et ils s'alimentent à 90 % des besoins en eau à partir d'eau recirculée.
Je passe maintenant, toujours pour ce premier tour de table, à Jacinthe Châteauvert, justement la citoyenne, la responsable d'un comité d'environnement. Qu'est-ce qu'elle dit à la question « L'exploitation minière peut-elle être écologique ?»
Ben, je vais revenir à sa définition. Il faut savoir c'est quoi l'écologie. Je reviens à la même définition. Si on prend le mot au sens plus populaire, la réponse que je ferai à la question, c'est non. Malheureusement, je vais dire non, ça peut pas être écologique parce que ça laisse toujours une empreinte. On travaille avec une ressource qui est non renouvelable. On a des empreintes qui peuvent rester visibles et présentes pendant des milliers d'années même. Avec la restauration des sites miniers abandonnés, on a certains exemples en région. Ce qu'on dit, c'est que non, ça peut pas être écologique. Par contre, on peut le faire d'une façon qui est responsable et qui donne des impacts moins importants sur ce qui reste dans notre environnement.
Et quand vous entendez un discours comme celui de M. Doyon, là, de l'industrie, est-ce que ça vous convainc? Est-ce que vous êtes, oui, effectivement, ces gens-là font du bon travail aujourd'hui, là, en 2010?
Ben, je dirais que oui, c'est déjà des bons pas qui sont bien. De remplir le trou, c'est très bien. De faire des efforts pour réduire les impacts qu'on a sur notre environnement immédiat, c'est très bien. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut continuer à travailler et développer des technologies, aller dans la recherche et le développement pour toujours améliorer ces techniques-là d'exploration, exploitation et restauration.
Donc, je vais maintenant à Bruno Bussière, qui est titulaire d'une chaire de recherche sur la restauration des sites miniers abandonnés. Je disais, c'est presque un sujet au complet. Votre réponse, Monsieur Bussière, à cette question, est-ce que l'exploitation minière peut être écologique?
Je dirais pas mal dans le même sens qu'il a été dit précédemment. Je pense qu'avoir zéro impact, je pense pas que ce soit possible d'avoir une mine à zéro impact. Avoir une mine qui a des impacts qu'on considère acceptables, qui ont réduit les impacts à un niveau acceptable, je pense que ça, c'est possible de faire. On a fait un cheminement très important dans les 30 à 40 dernières années. On a développé des technologies qui sont beaucoup plus efficaces. On réussit, durant l'opération, à bien contrôler les émanations de contaminants dans l'environnement, ce qui n'était pas le cas à une certaine époque. Mais par contre, c'est sûr qu'il reste des défis importants. On génère, on a de plus en plus de mines, on a de plus en plus de volume. On va maintenant vers des types de gisements différents. Donc, les défis, ils sont encore là. Il y a encore des choses. Je pense pas qu'on a atteint le bout de la route. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais il y a définitivement un chemin très important qui a été parcouru dans les dernières années. Là.
Parce que l'image qu'on a, c'est celle d'une industrie qui s'occupe très peu de son impact sur l'environnement. Vous dites, vous, cette industrie-là a fait ses devoirs, a changé, a évolué dans le bon sens?
Oui, et puis l'industrie a évolué avec les lois, évidemment, les règlements, lois et règlements qui sont apparus. Le vrai changement, là, c'est arrivé vraiment dans les années 80, là où on a pris conscience des impacts potentiels que peuvent avoir les rejets sur l'environnement, entre autres. Là, on a commencé à se questionner sur comment limiter ces impacts-là. On a mis en place des programmes de recherche tripartites, industrie, gouvernement, fédéral, provincial, ce qui nous a amené vers des solutions qui sont appliquées maintenant, où il y a place encore à amélioration, mais on a fait des gros pas. Mais avant, moi, j'ai fouillé la littérature, puis avant les années 70, le mot drainage acide, on le voyait nulle part dans la littérature.
Le drainage acide,
ouais,
c'est...
Oui, ben, c'est vrai. Là, il faudrait en peut-être repartir à la main. C'est tout simplement que certains gisements contiennent certains minéraux qu'on appelle les sulfures. Et les sulfures, lorsqu'ils sont exposés à l'eau et à l'air, ils s'oxydent. Et la réaction chimique, qui est naturelle, ça génère de l'acidité, donc de l'acide sulfurique. Qui, évidemment, quand l'acidité diminue, le pH diminue, donc les métaux sont plus solubles, on se retrouve donc avec des eaux très contaminées qui peuvent être très problématiques pour l'environnement. Donc, le problème était tout simplement pas connu à une époque. Et quand on en a pris connaissance, bon, là, on a tenté de trouver des solutions, mais les vrais pas en avant, ça a commencé dans les années 80.
Alors, je continue mon tour de table avec maintenant Christophe Monin, donc de l'Université Paul Sabatier à Toulouse. Votre réponse à cette question, M. Monin, est-ce que l'exploitation minière peut être écologique?
Ben, j'ai fait comme ce que viennent de dire mes prédécesseurs. Là, j'ai commencé par reformuler la question. Alors donc, en fait, la façon dont j'ai reformulé la question, c'est les impacts de l'exploitation minière peuvent-ils être minimisés? Donc, si on parle de minimisation, c'est qu'on parle de limite. Donc, où va-t-on situer finalement cette limite? Donc, plusieurs questions déjà apparaissent une fois qu'on a posé la question comme ça. C'est qu'est-ce qu'on peut faire? C'est-à-dire, quelles sont les technologies actuellement disponibles? Que pourrait-on faire? C'est-à-dire, quelle est la place de la recherche et développement dans le futur de l'industrie minière? Qu'est-ce qui est acceptable? Qu'est-ce qui est souhaitable? Ça, ce sont des questions sociales et politiques. Alors bien sûr, moi j'ai ici une double position. C'est d'abord celle de l'expert qui doit avoir une certaine réserve, une certaine retenue et qui doit répondre à des questions techniques. Et j'ai aussi l'avis de tout le monde qui est l'avis du citoyen que je suis aussi en tant que contribuable, pas ici mais en France. Donc en fait, que dit l'expert? Oui, l'exploitation minière peut minimiser les impacts qu'elle a et des tas de technologies sont mises au point qui minimisent ces impacts à la fois par la diminution du nombre de résidus, le recyclage de l'eau, la consommation minimum de produits chimiques, etc., etc. Et en fait, trois questions aussi d'un point de vue technique qui se posent quand on parle d'exploitation minière, c'est l'avant-mine, l'exploration, et je rappelle que par exemple dans les paysages latéritiques où l'exploration a été faite au bulldozer, certains paysages comme ceux de la Nouvelle-Calédonie ont été dévastés, donc il y a des moyens de faire de l'exploration par des sondages héliportés qui ne nécessitent pas le tracé de route et de chemin. La mine, c'est l'exploitation. L'après-mine, c'est la réhabilitation des sites et la remédiation. Voilà, donc il y a tout un tas d'aspects d'avant-mine, de mine et d'après-mine qui montrent qu'en fait, l'exploitation minière est prise maintenant dans sa globalité et pas seulement dans la durée de vie d'une mine. Moi, j'ai participé à une expérience, enfin en Nouvelle-Calédonie, une contre-expertise de l'installation d'une usine de nickel en milieu fragile, c'est le milieu tropical corallien, où en effet, les populations locales se sont opposées au développement et à l'installation de cette usine telle qu'il était fait, parce que les études préliminaires n'avaient pas été menées comme elles devaient l'être. Et ça conduit quand même à des troubles sociaux importants. Et il a été mis en route une concertation entre tous les acteurs sociaux et industriels qui ont conduit à l'industriel à revoir l'installation de son usine et le traitement des effluents.
Parfait. Alors on va dans la salle. Ici, monsieur, vous vous présentez et vous posez votre question, vous faites votre commentaire.
Bonjour, Guy Leclerc. Je veux rien que rétablir un équilibre politique, co-porte-parole de Québec solidaire dans la région, tant qu'à y être aussi. Moi, je suis né à La Sarre, j'ai grandi à Val-d'Or, j'ai couru dans à peu près toutes les slams de mine, pour ceux qui savent c'est quoi une slam de mine. À cette époque-là, on
n'avait
pas...
C'est quoi, justement, une slam de mine?
C'est des parcs à résidus. Puis, à cette époque-là, on n'avait pas conscience de la pollution que ça pouvait générer et du danger que ça pouvait causer. Au niveau de l'exploitation minière, moi, on est rendu en 2011, par contre. On regarde l'histoire de ce qui s'est passé, on regarde les traces de ce que ça a laissé, on les voit très bien.
2010, okay. Quand même, Québec solidaire, je vous signale.
Moi,
vous êtes en avance.
Je suis en avance. Au 21e siècle, mettons. Hey, c'est vrai, j'en ai sauté un bout.
Oui, oui.
Donc, il s'est fait beaucoup. On a le souvenir de ce qui ne s'est pas fait. Maintenant, on a évolué. Aujourd'hui, on a une université qui est figure de proue en termes de recherche. Dans le domaine du minier, sous terre, exploitation sous terre, je pense qu'on a développé un créneau d'excellence. Et je crois que l'expertise est très avancée pour pouvoir ramener à un niveau acceptable l'exploitation minière. Autrefois, ça ne l'était pas. Aujourd'hui, je peux dire et je pense que la recherche ou l'exploitation minière peut être écologique.
Donc, votre réponse à vous, c'est oui, l'exploitation minière peut être
cependant,
écologique.
Cependant, elle doit l'être.
Oui, en deux mots.
Elle peut l'être, mais elle doit l'être en ce sens qu'il faut réglementer et il faut prendre les mesures pour qu'elle le soit. Et ce n'est pas l'industrie minière qui va les prendre. C'est aux citoyens qu'on est ici. De décider qu'est-ce qu'on veut laisser à nos petits, 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 petits
enfants. Et aux politiciens, justement, qui sont dans la salle, effectivement.
Oui. Exactement. C'est les seuls qui peuvent changer les choses.
Alors, je parle de politiciens. Il y en a tout de suite un qui lève la main là-bas. Monsieur?
Marc Lemay, député du Bloc québécois à Ottawa. À votre question, je vais répondre oui. Ça peut être fait écologiquement, mais il faut... Et j'ai bien aimé votre invité de France, et je pense que ça va aller dans ce sens-là. C'est-à-dire que c'est la pré-mine qui est intéressante. C'est-à-dire qu'on ne joue plus à la cachette. On n'arrive pas en disant « aujourd'hui, j'exploite ou je vais commencer à faire de l'exploration à telle place sans en parler à personne. » C'est fini. Il ne faut plus faire ça. Et c'est inacceptable et la population ne l'accepte pas. Alors, quand on voit Agnico Eagle, quand on voit Minorizon, quand on voit IAMGOLD, quand on voit ces compagnies minières-là qui sont impliquées et qui disent, on a vu Osisko, je le sais qu'il y a un problème à Malartic, on sait.
On va en parler certainement.
Sûrement.
Deux secondes.
Mais
oui.
Alors, moi, ce que je dis, c'est il faut que les compagnies minières soient responsables et commencent dès la pré-mine à parler à la population autour d'elle. Et ça, c'est très important.
Vous dites il faut, mais est-ce qu'effectivement, elles le font déjà actuellement?
Certaines, les grandes le font. Les petites ont été ramenées au pas. j'appelle ça, certaines juniors ont vraiment, vraiment exagéré. North Star Mining, par exemple, il y a eu de sérieux problèmes à certains niveaux. Mais maintenant, je pense que les compagnies minières n'ont pas le choix. Dès le stade de l'exploration, elles n'ont pas le choix. Et je terminerai avec une seule petite remarque. Il ne faut pas oublier de consulter aussi les communautés autochtones, qui sont très importantes dans notre région.
Effectivement. Alors, on continue dans la salle. Ici, monsieur, vous vous présentez.
Doris Saint-Pierre, Action boréale de l'Abitibi-Témiscamingue. Moi aussi, je suis de l'avis de précédents interlocuteurs qui disent qu'il n'y a pas vraiment de rapport entre l'écologie et l'exploitation minière. J'en vois vraiment pas. On parlait de réduire les impacts, ça va. Si on en revient plutôt à la notion de développement durable, où on a trois éléments, le social, l'économique et l'environnemental. Essentiellement, il y a deux choses là-dedans, deux entités. L'environnement, l'écologie qui est l'équilibre, qui est toujours à la recherche d'équilibre. Le social, l'humain, qui est toujours à la recherche de bonheur. Entre les deux, l'économie, qu'elle soit industrielle ou autre, l'économie n'est qu'un moyen d'exploiter les ressources pour répondre aux besoins des gens, de la société, de l'humanité. Et tout est dans la façon dont on le fait. Donc, pour moi, le développement, qu'il soit minier ou forestier, n'est pas écologique. Je veux dire, il peut être plus respectueux de l'environnement sous certaines formes que d'autres. Mais par contre, tout ce qui touche le développement, l'exploitation des ressources, la transformation des produits pour répondre à des besoins réels, c'est politique. Ça dépend des décisions de nos gouvernements qui décident ou qui devraient décider comment on exploite ces ressources-là d'une façon raisonnable, durable, pour faire le bonheur des humains. Et si on fait le bilan de la science et de la technologie à date en termes d'équilibre des écosystèmes ou de bonheur des humains, c'est un bilan, vous l'avouerez, qui est plutôt mitigé. Vous savez, on est dans un monde de surconsommation. Sur le plan du développement minier, on est à la merci des booms, de la hausse et de la baisse du prix des métaux à l'échelle mondiale. Et là, on est en train de faire un 18 trous qui va être visible de la Lune. En Abitibi-Témiscamingue.
C'est où, ce 18 trous-là?
Ben, il y en a un à Malartic.
Oui, qui est un gros, oui.
Bon, ben, je pourrais vous donner la carte si vous voulez après.
Pas besoin d'être Tiger Woods pour le réussir, celui-là, je pense.
Tiger Woods peut aller se rhabiller après ça.
Je n'interviendrai pas sur cette question délicate. On a maintenant une intervention là-bas. Vous vous présentez.
Danick Laporte, du groupe Éco-citoyen de Rouyn-Noranda. En fait, la technologie, tout ça, c'est intéressant. T'sais, on parle qu'ici, la technologie est arrivée et là, les minières sont de plus en plus responsables. Ça, c'est bien. Par contre, il faut se le rappeler, les minières ont une raison d'être et elle est cotée en bourse. Donc, les démarches, hein, ou en tout cas les actions qui sont posées, nécessairement, elles revêtent toujours un aspect économique. Donc, le premier aspect d'un choix, c'est économique. La faisabilité d'un projet, un projet qui va de l'avant, mais nécessairement, c'est un projet qui va être rentable économiquement. Donc ça, c'est la raison d'être des minières. On ne peut pas les blâmer, on est dans un système capitaliste. Ce qui m'amène à dire, les technologies sont ici, mais ne sont pas nécessairement ailleurs. Les mêmes minières qui œuvrent ici œuvrent ailleurs de façon différente. Ici, on a progressé. Donc, on a encadré un peu mieux l'industrie minière. Il y a encore des lacunes.
Ce que vous voulez dire, c'est qu'elle se comporte bien ici et mal ailleurs, à l'étranger notamment?
Ben oui, définitivement. Parce qu'elle respecte le cadre légal du milieu d'accueil, si on peut dire. Donc, ici, elles le font dans le cadre actuel. Donc, c'est sûr que ce cadre-là devra être revisé parce que, nécessairement, il y a des lacunes. Le free mining ou le libre accès à la ressource n'est pas à l'avantage des citoyens, n'est pas à l'avantage de l'aménagement du territoire. Donc, en partant, il y a une problématique, là, j'irais, de préséance.
Et est-ce que vous avez l'impression que les pouvoirs politiques en place ont tendance à être plus sévères avec l'industrie minière, avec ceux qui exploitent les mines?
Graduellement, face à la mobilisation citoyenne, face à l'implication des citoyens dans ce processus-là de développement, oui, les gouvernements doivent et devront s'ajuster.
Un de nos invités, une de nos personnes ressources ici, Jean-François Doyon, donc de l'industrie minière, voulait prendre la parole.
Oui, je voulais amener des compléments d'information. Effectivement, quand M. Monin a parlé des limites de la technologie, tout ça, c'est pour cette raison-là que de l'industrie minière, on investit des grosses sommes en recherche et développement pour accroître les connaissances et repousser les limites des technologies. Et quand on repousse les limites des technologies, ben on peut être encore plus performant. L'autre point, c'est concernant l'acceptation sociale. Je dirais, depuis quelques années, ça a évolué rapidement. Pour nous, c'est rendu un incontournable. Il faut, à l'étape d'avant-projet, consulter la population. Et je pense que bon nombre de minières l'ont compris avec Minhorizon, avec Alexis Minéral qui consulte à l'étape d'avant-projet. Donc, c'est rendu pour nous un incontournable.
Là-bas, on a demandé la parole. Vous présentez.
Oui, bonjour. Gabriel Arsenault, géologue, c'est les entreprises minières Globex. Je voudrais répondre à la notion que les compagnies sont moins responsables de notre enjeu. Je pense qu'il faut vraiment regarder ça cas par cas. Et il faut garder en tête que on a affaire à des gouvernements étrangers qui ont tout de même le droit de développer leurs ressources comme bon leur semble. Que c'est vrai qu'il y a eu des abus, mais que souvent c'est pas pire que les abus qu'il y a eu ici. On parle du même genre d'abus. Et que souvent, on a tendance à faire passer ces pays-là pour des petits pays qui sont sous-développés, alors que si on regarde dans un cas comme le Chili ou le Mexique, c'est pas du tout le cas. C'est des pays qui savent ce qu'ils font, qui sont tout aussi avancés que nous, qui peuvent prendre des décisions de société aussi.
Monsieur ici, vous avez demandé la parole.
Simon Lacaire, du Conseil régional de l'environnement de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est vrai que l'impact zéro est presque impossible pour les minières, mais il y aurait possible de faire des gains écologiques à l'extérieur d'exploitations minières proprement dites. Des fois, on souhaiterait que les minières sortent un peu de leur cadre minier, comme par exemple, Agnico Eagle est en train de creuser présentement une des mines les plus profondes au monde. Il y a d'énergie incroyable au fond de ça. La géothermie, on n'entend pas beaucoup parler en région. Est-ce qu'il est possible de tirer profit de ça, de peut-être chauffer un village ou de créer des grappes industrielles autour de ça? C'est des projets qu'on aimerait voir naître, mais... C'est pareil comme pour les fosses à ciel ouvert. Est-ce qu'on donne une seconde vie à ces grands trous qui vont laisser des traces dans le paysage? Donc, c'est un défi qu'on souhaiterait que les minières aussi travaillent.
Donc, des retombées positives de l'exploitation. Est-ce que, ici, que, du côté d'Anico Eagle, quelqu'un veut répondre à cette question très, très, très précise? Est-ce qu'on ne pourrait pas profiter de la géothermie en plus d'aller chercher l'or ou d'aller chercher le minerai?
Ça prend un client. Ça coûte beaucoup d'énergie de pomper cette eau. C'est pas aussi simple et ça prend un client pour consommer cette chaleur. Parce qu'à partir du moment où on la transporte, on la dissipe et elle est perdue. L'Université McGill, on a investi un montant d'argent significatif avec l'Université McGill pour voir ce qu'on pouvait faire avec ça. Et le bilan énergétique n'était pas nécessairement positif.
Donc, l'Abitibi n'a pas besoin d'être réchauffé, c'est ce que vous nous dites.
Non, c'est ça. Pour en faire quelque chose d'intéressant, prend quelqu'un pour consommer la chaleur.
Bien sûr. On va là-bas, monsieur, vous avez demandé la parole.
Oui, merci, Daniel Bernard. Bonjour tout le monde. La première chose, moi, un sujet qui m'a toujours interpellé, je viens du secteur mini-oui, mais c'est la notion de développement durable. La réflexion moi-même que j'ai faite là-dessus, c'est quoi du développement durable? Il y a un impact social, il y a un impact économique, puis il y a un impact environnemental. Quand on parle de société, qu'est-ce qu'on veut? On dit souvent que l'industrie minière, pour plusieurs, dit que ce n'est pas du développement durable. Moi, j'ai fait ma réflexion là-dessus, puis j'ai dit oui, c'est du développement durable. Peut-être la ressource n'est pas...
Parce que vous êtes géologue ou parce que vous êtes politicien? Avec quelle casquette vous avez décidé ça? Oui.
Qu'est-ce qu'on veut du développement durable? Premièrement aussi, c'est quand on parle de bien-être social et autres, c'est qu'on veut qu'une industrie, qu'une mine qui s'installe en région puisse faire... Oui, de l'argent, mais réinvestir pour trouver une prochaine mine. Puis quand on parle de développement durable, quand on est dans une région comme l'Abitibi-Témiscamingue, où les connaissances s'accumulent et la recherche, on trouve des nouvelles mines, on a des emplois qui se perdurent, puis on a 400, 500 personnes et plus qui travaillent pendant 20, 30, 40 ans. Alors moi, ma notion de développement durable, dans le cas de l'industrie minière, c'est la pérennité de l'industrie qui continue à développer et l'Abitibi-Témiscamingue en est un exemple à cet égard.
Il y a derrière moi quelqu'un qui avait demandé la parole et une autre personne. Vous vous présentez, vous dites qui vous êtes, ce que vous faites.
Oui, mon nom est Joël Pagé, représentant Xstrata Nickel Mine Raglan. La minière que je représente travaille actuellement dans un milieu dont l'environnement est fragile, l'Arctique, le milieu arctique. Pensons également à la présence de peuples autochtones. Effectivement, c'est une notion. On parle de science, il y a également les sciences sociales qui interagissent maintenant dans le domaine minier aujourd'hui. Nous devons intégrer, et il est de notre devoir d'intégrer de plus en plus les populations locales à l'essor économique pour que la redistribution de la richesse de la minière comme telle puisse se faire sur le territoire où elle s'établit. Par exemple, dans l'Arctique québécois qu'on appelle le Nunavik, cette minière-là que je représente embauche, bon an, mal an, une bonne proportion d'Inuits qui viennent faire leur école dans l'industrie minière au Québec. Également, on pense à l'environnement. Ce qu'on voit actuellement, l'industrie minière est vraiment logée maintenant au niveau recherche et développement actuellement. Elle intègre de plus en plus des meilleures technologies ce qu'on appelle les best available technologies ou les meilleures technologies disponibles actuellement. Cette minière-là, Minraglan, actuellement, en 95, en fait, a commencé à faire de la recherche et développement pour ne pas avoir d'empreinte environnementale avec son autre procédé. Chez nous, le Zero Process Water Discharge, ou zéro rejet d'eau minière de son procédé hydrométallurgique. C'est une réalité qu'on a pu mettre en branle 2002-2003. On parle vraiment de quelque chose de novateur qui maintenant circule dans l'industrie minière, mais on parle de choses qui sont réelles, qui se sont produites et qui vont encore repousser les frontières d'une volonté de minimiser l'impact environnemental de cette industrie-là sur le territoire.
Madame, ici, vous voulez réintervenir, donc Madame Châteauvert, allez-y.
Oui, je voulais revenir sur le développement durable de l'industrie minière. Oui, l'industrie minière, on peut dire qu'elle est durable. On parle de 100 ans d'activité, mais je comprends l'environnement de l'Abitibi. On est assis sur une faille extrêmement riche de minerais. C'est l'environnement dans lequel on vit. Donc, on peut dire, oui, l'industrie minière a duré dans le temps, sauf qu'elle a fouillé à un endroit, on a vidé cet endroit-là, il n'y en a plus, on change d'endroit, etc. Il y a plein d'exploitations minières qu'il y a eu en région que maintenant ne sont plus en exploitation. Donc, oui, on peut dire que l'industrie minière est durable. Mais par contre, est-ce qu'on peut penser qu'on fait un vrai développement durable? On peut quand même se poser la question encore. L'autre aspect, par rapport à la société, oui, les gens en profitent dans le temps que ça dure, mais au moment où est-ce que l'industrie n'est plus présente dans un milieu parce qu'elle a retiré les ressources à cet endroit-là, ils sont obligés de changer de place. Les citoyens doivent supporter... Je vais prendre l'exemple de Malartic, personne n'en a parlé encore. Mais oui, présentement, M. Vézeau nous disait l'autre jour au Forum minier que Osisko paye déjà des redevances, donc pourquoi en demander d'autres? Parce qu'ils construisent des écoles high-tech, ils font... Bon, c'est très bien. Cependant, quand il n'y aura plus de minerais à cet endroit-là, qu'ils vont refermer le trou ou qu'ils vont le restaurer d'une certaine façon X... Les citoyens, la ville, vont avoir des beaux bâtiments neufs, mais elle va devoir en supporter les frais par la suite et aura peut-être plus l'industrie minière près d'elle pour justement l'aider à supporter ces infrastructures.
Mais est-ce qu'au nom de ce malheur qui pourrait arriver dans 20, 30, 40, 50 ans, on doit pour l'instant ne rien faire?
On dit pas qu'on ne doit rien faire. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut le faire selon l'avis des citoyens, prendre en compte l'avis des citoyens et surtout écouter ces citoyens-là qui ont des demandes, justement, en rapport avec l'exploitation des mines à ciel ouvert qui est très remise en question.
Je vais continuer dans la salle parce que là-bas, il y a un monsieur qui a levé la main il y a quelques minutes déjà. Vous présentez.
Oui, Denis Bois de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Je voulais juste peut-être faire un point parce qu'on est parti de l'écologie, on est allé vers le développement durable. Je pense que ça va naturellement ensemble. En termes de développement durable, il y a peut-être une notion qui est importante à conserver ou à avoir en tête, c'est que on n'est pas une région de mines, on est une région minière. Une région de mines, c'est des mines. Une mine arrive, une mine disparaît, et puis éventuellement, s'il n'y en avait plus, c'était vraiment une région de mines, on ne serait plus ici pour en parler. Donc, une région minière, c'est très, très différent. Il y a une infrastructure qui tient ça. Et depuis, peut-être pas 100 ans, mais peut-être depuis 80 ans, qui se fait de l'exploitation, et on continue à travailler à l'intérieur de ça. Il se développe des capacités qui se retrouvent aussi à l'étranger. Et peut-être aussi, à l'époque, les gens qui voient peut-être l'industrie minière comme étant une industrie coloniale, on n'est pas du tout là-dedans. On l'a peut-être été particulièrement dans les années, peut-être jusqu'à 70, où il y avait peu ou très peu de francophones qui étaient, entre autres, à la barre des entreprises. Et maintenant, c'est un changement majeur. Les gens qui dirigent les opérations, peut-être pas les finances complètes des grandes entreprises, mais du moins les mines, ce sont des gens qui habitent le territoire, c'est devenu des citoyens qui ont envie que la région qui habite devienne une région qui poursuive. Et ils veulent grandir là-dedans, leurs enfants sont là-dedans. Donc, c'est une perception du durable, en fait, qu'on peut établir sur ces plans-là.
Alors, on va continuer dans la salle, peut-être, ou dans parmi nos personnes ressources. On a une question qui se pose beaucoup dans la région, c'est la question des mines à ciel ouvert et de la fameuse mine à ciel ouvert de Malartic. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Est-ce qu'il y a une différence entre l'exploitation à ciel ouvert et l'exploitation souterraine plus conventionnelle? Est-ce qu'on a des impacts sur l'environnement qui sont différents dans un cas comme dans l'autre? J'aurais envie de parler, de m'adresser à quelqu'un qui nous regarde de l'extérieur, à notre invité de France, Christophe Monin. Est-ce qu'il y en a partout des mines à ciel ouvert? Il y en a partout des mines souterraines? Est-ce qu'entre les deux, on a un impact sensiblement différent sur l'environnement?
Ben, j'avais peur de la question, justement, j'étais en train de me cacher sous la table.
Mais je vous ai vu.
Ben, le premier impact, c'est celui sur le paysage. Hein. C'est tout simplement, d'un côté, on les voit, de l'autre, on ne les voit pas. Ça, c'est la première chose. Après, en ce qui concerne tous les impacts de traitement des minéraux et tout, que ça soit à ciel ouvert ou en dessous, c'est la même chose. Ça, c'est ce qui diffère, c'est juste, en effet, la modification du paysage. Alors, en Nouvelle-Calédonie, par exemple, c'est quelque chose d'extrêmement important. Quand vous exploitez des latérites, c'est-à-dire une couche d'altération que quelques dizaines de mètres d'épaisseur, alors là, vous décapez de grandes surfaces de paysage. Et là, la réhabilitation des sites et la remédiation devient essentielle. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que, bien sûr, après l'exploitation, les sites ne seront plus jamais pareils. On ne va pas reconstruire les montagnes telles qu'elles étaient. On ne va pas remettre le paysage tel qu'il était. C'est absolument impossible.
On continue ici, M. Bussière.
Oui, ben juste l'ingénieur en minier en moi voudrait peut-être préciser un peu les différences qu'il y a entre l'exploitation minière à ciel ouvert et souterraine. C'est sûr que d'un point de vue environnemental, la principale différence, c'est le volume de rejets qu'on produit. C'est sûr que quand on y va avec une mine souterraine, on a un gisement qui est à une certaine profondeur et on utilise un puits, donc un trou vertical pour aller chercher, et ensuite avec des galeries horizontales pour aller chercher notre gisement. On est beaucoup plus chirurgical, entre guillemets. On va chercher uniquement ou presque le gisement. La quantité de stérile qu'on va produire va être beaucoup moindre. Alors que lorsqu'on est en surface, pour avoir accès à notre gisement qui est au milieu, il faut créer une ouverture qui est beaucoup plus grande. Donc, pour avoir accès à ce gisement-là, pour le même volume de gisement, on va tasser un beaucoup plus gros volume de roches qu'on va appeler stériles. Et c'est certain que ces roches-là qu'on va stocker en surface, mais l'empreinte, en plus de l'ouverture de la mine à ciel ouvert, vous allez avoir une empreinte plus grande de la part des stériles pour un même gisement.
Alors, il faudrait peut-être le dire à Malartic, rappeler ce que c'est que Malartic pour le bénéfice des auditeurs. C'est une mine à ciel ouvert va commencer bientôt d'être exploitée.
Oui, c'est ça. C'est un gisement à ciel ouvert. C'est une mine d'or. C'est un gisement qui est relativement à faible teneur. Donc, pour réussir à générer suffisamment de revenus, il faut extraire des volumes importants. On parle d'une fosse, on pourra me corriger si je me trompe, de 2,5 km de long par 800 mètres de large et par 400 mètres de profondeur. Évidemment, ce genre de gisement-là va générer plus de rejets à la fin qu'un gisement souterrain.
Lui, ce qui frappe l'imagination, c'est qu'on creuse dans la ville pratiquement. Hein?
Dans ce cas particulier-là, c'est ce qu'on appelle une mine à ciel ouvert en milieu urbain. Donc, il y a tout l'effet de la proximité des populations qui rentre en ligne de compte. Une même mine qui est située, à Joutel, l'ancienne Joutel, probablement il y aurait eu moins de discussions à propos d'un gisement semblable.
Dans la salle, des réactions. Madame, ici.
Imane Kamal, citoyenne de Rouyn-Noranda. Ma question par rapport à la mine à ciel ouvert en milieu urbain à Malartic versus un esker près d'Amos. Est-ce que la loi sur
un les... esker?
Un esker qui est une espèce d'étendue d'eau purifiée par les restants de glaciers.
Au cours des âges géologiques, oui, vrai.
Si une compagnie minière a un claim à exercer en milieu urbain versus un milieu naturel extraordinaire comme un esker, est-ce qu'il y a un des deux milieux qui est davantage protégé dans notre société québécoise actuelle? C'est ça ma question.
Monsieur Jean-François Doyon, vous pouvez répondre.
Simplement dire que dans le projet de loi modifiant la loi sur les mines, il y a une attention particulière qui est portée à la protection des eskers et à la qualification de leur potentiel en termes d'aquifères.
Oui, madame, ici, madame Châteauvert.
Je ne veux pas répondre, je vais poser une question plus pointue encore. Est-ce que l'industrie minière serait prête à ne pas exploiter un gisement qui serait, exemple, situé sur un esker qui fournit de l'eau potable, qui est une ressource essentielle à la vie, même s'il y avait du minerai en dessous?
Oui, ici, monsieur, vous vous présentez.
Oui, mon nom est Jean-François Ouellette, je suis géologue. C'est pour démystifier un petit peu les eskers. Ce ne sont pas des choses exceptionnelles. Le Québec est couvert d'eskers. C'est un processus lors de la déglaciation. C'est naturel.
On pensait qu'il y en avait juste en Abitibi.
Non, c'est commun. Il y en a partout, de Laurentide. Il y en a dans le Nord. Amos, il y a un grand esker. La route Amos-Matagami est construite sur un immense esker qui est en réalité une moraine interlobaire lors de la déglaciation. Ça, techniquement. Pour répondre à la question, dire qu'en fin de compte, effectivement, si un esker est une source d'eau potable, un aquifère utilisé pour une agglomération, ça va de soi qu'il y a des zones de protection prévues à la loi pour ces sources d'eau. Ça va de soi. Mais les eskers en tant que tels couvrent le Québec. On ne peut pas penser soustraire à l'exploration minière ou au développement minier l'ensemble des eskers.
Monsieur, vous présentez.
Jean Gouthier, géologue.
Nous sommes plein de géologues ici. Oui.
Je suis originaire de Montréal
Et moi, j'ai habité à côté de la carrière Miron.
C'est un beau trou aussi, oui.
C'est un beau trou, mais si vous réalisez, c'est l'endroit, Montréal avec Laval, c'est l'endroit où il y a le plus d'exploitation à ciel ouvert, qui a eu toutes les carrières en milieu urbain. Miron, Francon, et ces sites-là ont été restaurés. Ils sont en train d'être restaurés. Le parc de la nature à Laval, c'est une ancienne carrière. Donc, ça existe, la restauration en milieu urbain. Ces exploitations-là ont existé. Donc, les gens, des fois, ils décrivent des trucs plus au nord, mais il y a eu des exploitations et on ne décrit pas les trucs qui se sont faits dans la région de Montréal.
Madame, ici, vous avez demandé la parole également.
Oui, Jocelyne Saussier, citoyenne. Moi, j'aimerais qu'on se pose la question de l'utilité de la mine par rapport à son impact. Qu'on creuse, qu'on fasse des trous pour aller chercher du nickel ou du cuivre, ça va, même s'il y a beaucoup d'impact, mais qu'on fasse des trous énormes de 1 puis 2 kilomètres pour aller chercher de l'or, pour faire servir des talons à la monnaie ou faire des bijoux. Et puis là, il y a le projet Cisco, mais il y en a d'autres projets ici à l'Abitibi. Est-ce qu'on va avoir plusieurs trous comme ça pour faire des bijoux en or?
Monsieur, vous présentez.
Oui, Jean-François Ouellet, géologue. C'est pour répondre un peu à madame sur la pertinence de miner de l'or en Abitibi. Je peux vous dire que présentement, sur la faille de Cadillac seulement, c'est-à-dire entre Val-d'Or et Rouyn, il y a 20 millions d'onces d'or à miner. Tandis que ces 20 millions d'onces d'or sont trouvées, cubées, prêtes à miner. À 1 000 de l'once, on a 1 200 pratiquement aujourd'hui, là. À 1 000 de l'once, là, c'est 20 milliards de dollars.
C'est beaucoup d'argent.
20 milliards de dollars. Là-dessus, les coûts de production sont environ la moitié, 500 de l'once. Ça, les coûts de production, il faut comprendre, c'est des salaires, c'est l'achat de services, c'est des véhicules, c'est des matériaux, du carburant, de l'énergie. C'est les coûts de production. C'est 10 milliards de dollars. Donc, pour miner les 20 millions d'onces qu'on a présentement devant nous, il va se donner 10 milliards de dollars localement. 10 milliards, c'est 10 000 millions de dollars. 10 000 millions. Ça, ça laisse des traces à une société et ça permet aux gens ici d'être fiers de leur industrie, fiers de vivre par eux-mêmes et fiers de travailler.
Merci. D'autres réactions? Vous vous présentez et vous dites ce que vous faites dans la vie.
Ah! Comme si personne ne le savait ici.
Mais les auditeurs aimeraient savoir.
Je suis Pierre Corbeil, je suis résident de l'Abitibi depuis 32 ans dans le secteur de Val-d'Or.
Et ministre.
Mascoutin d'origine. Mm-hmm. Avant d'arriver au stade de ministre, je vais vous dire que j'étais dans ma famille à Saint-Hyacinthe pour le week-end pascal. Et entre Saint-Hyacinthe et Montréal, on voit deux grosses mines à ciel ouvert. En fait, c'est des carrières. Une qui est en train de bouffer le Mont-Saint-Hilaire, puis l'autre qui est en train de bouffer le Mont-Saint-Bruno. Tout juste à côté du centre du ski, tout juste à côté du parc du Mont-Saint-Bruno. Alors, quand on parle d'une mine à ciel ouvert en Abitibi, on devrait regarder celle qu'on a proche de notre environnement dans les régions limitrophes à Montréal, en particulier en Montérégie. Ça, c'est une chose. Deuxième des choses, vous êtes en présence ici d'une région qui a pris son essor sur l'industrie minière, sur la mise en valeur des ressources naturelles. Si ce n'eût été du bois et des mines, on ne serait probablement pas en discussion ici ce soir. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a des gens qui sont venus ici pour faire un coup d'argent, comme dans le temps du Klondike, dans le temps où on ne connaissait pas nécessairement l'impact que les gestes de l'homme posaient sur l'environnement. Et il y a eu une conscientisation, il y a eu l'acquisition de connaissances, et on ne fait plus aujourd'hui les choses comme on le faisait auparavant. Parce qu'on a envie de rester ici. Il y a une génération, deux générations, trois générations, bientôt quatre générations de personnes. D'ailleurs, les taux de natalité sont là pour le prouver, la région de l'Abitibi, avec deux enfants par femme, là, je pense qu'on bat des records. Alors, on a envie de rester, puis on a envie de garder notre environnement pour les générations qui vont nous suivre. Alors là, j'arrive à ma carrière récente de politicien.
Oui.
Et ma carrière récente de politicien montre que les gouvernements sont sensibles à cette conscientisation-là, à ces connaissances-là qui sont acquises, et intègrent ça dans nos lois et dans nos règlements. Alors, l'industrie minière a évolué, les gouvernements aussi évoluent, et il y a de l'écho à ce que les gens pensent, notamment dans le tout récent budget, avec un ajustement à la hausse des redevances des mines, redevances sur l'eau, et aussi refonte de la loi sur les mines. Il y a une stratégie minérale qui a été déposée,
qui amène une nouvelle loi sur les mines qui va être débattue à l'Assemblée nationale prochainement.
Parce qu'effectivement, on a posé la question.
Consultation
de savoir, est-ce
générale.
Qu'on ne devrait pas avoir les dents plus, avoir plus de dents sur, dans ce domaine-là? Est-ce que vous êtes en train de nous dire que oui, c'est ce qu'on va faire?
C'est un processus qui est en train de se réaliser et qui va se faire avec les échos qu'on reçoit d'activités comme celle de ce soir, mais aussi de tout le débat qui est sain, qui est normal.
Aussi, il faut écouter la population parce qu'il faut être réélu un jour.
Ça, c'est un autre débat.
On continue dans la salle. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Madame.
Bonjour, ici Christiane Lassalle. Moi, je suis tannée qu'on vende pour vendre parce qu'on pense dans l'immédiat. Un exemple très clair pour Cisco. C'est une histoire de 10 ans qui va faire des dégâts pour longtemps.
On parle de la mine de Malartic, là. Hein?
C'est ça. On a beau faire attention, on apprend, on va faire, on va arrêter de mettre nos poubelles dans le fond de la cour, mais on peut-tu arrêter de vendre rapidement? On peut-tu commencer à y aller plus lentement? On est-tu obligé de tout sortir tout de suite? C'est beau, on va avoir 10 milliards de dollars. Parce qu'ils sont les autres. Ils vont où? Pour qui? Pourquoi? On est-tu obligé de tout faire ça vite, tout de suite, tout de suite? C'était ça mon point.
Madame, vous vous présentez.
Joanne Jean, je suis ingénieure géologue, mais aussi rectrice à l'Université du Québec en Abitibi.
C'est une mine de géologue, l'Abitibi, ma foi.
Bien, c'est un pays de mines. C'est d'ailleurs ce qui m'a amenée en 1980 ici, en Abitibi-Témiscamingue. Et je pense qu'on est une société de plus en plus mature. Je parle pour le Québec, mais je parle aussi pour l'Abitibi-Témiscamingue. Quand moi, je suis arrivée en 80 ici, je me rappelle, à Rouyn-Noranda, de la difficulté qu'on avait avec les rejets de ce qui était maintenant Xtraton, mais qui était à ce moment-là Minéraux-Noranda. Mais l'implication citoyenne a fait en sorte qu'il y a eu des changements importants qui ont été amenés. Mais c'est encore aujourd'hui le constat qu'on peut faire. L'industrie a beaucoup évolué. Puis il va continuer à évoluer au cours des prochaines années. L'industrie minière, c'est une industrie importante, importante pour notre région, mais je dirais qu'elle est aussi importante pour le Québec.
Merci beaucoup. Ici, là, à l'autre bout de la salle, monsieur.
Oui, Pierre-Yves Anctil. Premièrement, je voulais dire...
Êtes-vous géologue?
Non, pas du tout. Oh! Dans le domaine de la santé. Je voulais dire, premièrement, quand les gens de l'industrie minière nous disent que c'est du développement durable, je pense que c'est une aberration. Franchement, là, c'est comme quand les compagnies pétrolières nous disent que c'est du développement durable. Il ne faut pas embarquer dans ce discours-là. Je pense que les mines en Abitibi, c'est essentiel. C'est un mal nécessaire. On doit vivre avec. Ça apporte beaucoup d'emplois. C'est quelque chose de productif au bout du compte. Là où j'invite les citoyens à demeurer prudents malgré tout, c'est quand on a des exemples flagrants récemment. On entend l'industrie dire « oui, c'est pas comme c'était avant, on a beaucoup progressé ». Ça fait beaucoup penser à la religion catholique actuellement qui dit « non, maintenant ça va très bien ce qui s'est passé avant, c'était comme ça, mais maintenant c'est beaucoup mieux ». Il faut faire attention, c'est loin d'être le cas partout. Je pense qu'il faut que les minières continuent à faire attention, mais il ne faut pas penser que les gouvernements vont tout prendre en charge puis vont réglementer de façon responsable. Quand on voit ce que le gouvernement Charest fait en Inde avec l'amiante, entre autres, on l'exploite ici, mais on l'envoie ailleurs. Ça, c'est un exemple qui est particulièrement troublant. Je ne sais pas ce que M. Corbeil pense de ça personnellement. Moi, c'est quelque chose que je trouve très questionnable là, dans un certain sens. Donc, il y a des exemples flagrants très récents. Quand on dit dans les années 70, c'était différent. Il y a des exemples quand même assez récents où l'industrie ne fait pas nécessairement ses devoirs. Et à ce niveau-là, je pense que la population doit continuer à rester vigilante.
Jean-Guy Beaulieu, natif de la région. Une des difficultés, je pense, qu'on a, c'est le pouvoir que les minières ont de décider ce qu'elles veulent, quand qu'elles le veulent. Alors, on parle de quoi de qui est durable. Alors, je sais pas, moi, Malartic, comme celle-là, ça va prendre 10 ans. Après ça, c'est fini. C'est pas durable, ça. Alors, c'est le pouvoir qu'elles ont de décider ce qu'elles veulent. Le dernier résistant à Malartic, ben, la compagnie vient demander au gouvernement qu'il applique la loi, je veux dire, qu'il soit exproprié. Elles ont le pouvoir qu'elles veulent et elles essayent, quand ils n'ont pas le choix, d'être correctes un petit peu.
Merci beaucoup. D'autres réactions dans la salle? Ici, monsieur.
Bonjour, Gérard Hull. Moi, je suis citoyen aussi de Rouyn-Noranda. Ben, je suis arrivé en Abitibi peut-être à peu près dans les mêmes temps que M. Corbeil dans les années 70. Et j'ai toujours travaillé en exploration depuis que je suis arrivé ici. J'ai quand même vu pas mal l'évolution de l'exploration depuis cette époque-là. Puis d'après ce que moi j'ai vu, mon opinion personnelle, c'est que l'industrie évolue quand même pas mal au même rythme que la population. C'est sûr qu'à cette époque-là, la population se promenait quand même en auto avec une bouteille de bière entre les deux jambes. L'industrie fait à peu près pareil.
Pas en Abitibi.
Aujourd'hui, je crois qu'on a évolué quand même beaucoup, puis l'industrie évolue quand même beaucoup aussi. On a encore quand même beaucoup de chemin à faire. On a encore des délinquants, pareil comme on a dans la population aussi. Je ne crois pas que dans la population, on soit prête à dire on enlève les polices complètement. On a encore besoin de la police pour réglementer, pour mettre des gens au pas de temps en temps. C'est pareil dans l'industrie. Tant qu'à moi, c'est ma conclusion.
Monsieur? Doris Saint-Pierre, oui, Action Boréale de l'Abitibi-Témiscamingue. Il y a un petit détail avec lequel je ne suis pas d'accord. Il dit que l'industrie minière est un mal nécessaire. Moi, j'en reviens à ma logique. Il faut que ça soit exploité d'une façon rationnelle et raisonnable pour répondre à des besoins raisonnés et raisonnables.
Mais ce n'est pas le cas actuellement?
Non, pas du tout. Non, parce que là, on exploite parce que les prix sont hauts. Quand les prix sont bas, on ferme, on s'en va, on se fout, on laisse tout en plan et on s'en va. Et j'en reviens à cette dimension politique. C'est au gouvernement. On parle d'une réforme de la loi sur les mines, M. Corbeil l'a mentionné, sauf qu'ils n'ont pas à date accepté de remettre en question le principe du free mining, qui dit qu'à partir du moment où tu as un claim minier, un titre minier, tu peux faire tout ce que tu veux après. Et ça, c'est ce qui, comme le monsieur disait tantôt, c'est ce qui donne tout ce pouvoir aux industries minières par rapport à tous les autres usages qu'on peut faire du territoire. Moi, je ne suis pas contre les mines, au contraire. Je les aime tellement que j'aimerais qu'elles m'appartiennent et j'aimerais qu'on les nationalise.
Monsieur le ministre, vous voulez répondre rapidement à cette remarque-là, quand même?
Très rapidement, c'est pas vrai que les mines peuvent faire tout ce qu'elles veulent. C'est pas vrai, ça. Et ils vont devoir avoir d'abord le financement pour faire leur projet. Ils vont devoir, après ça, passer les grilles de l'acceptabilité sociale. Puis après ça, on va devoir obtenir leur certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement. Alors, de là à dire qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent, c'est faux.
On s'en va donc à la conclusion de cette rencontre de ce bar des sciences Radio-Canada Québec Sciences. Je vais demander à nos quatre personnes ressources leurs petits mots de conclusion de cette discussion. Donc, je vais commencer par Christophe Monin, directeur de recherche au CNRS à l'Université Paul Sabatier à Toulouse en France. Monsieur Monin, vos mots de conclusion.
Alors ici, on a eu affaire à un public particulier, parce que c'est un public extrêmement avisé, puisqu'on a vu que les trois quarts de la salle, c'était des géologues. Donc, déjà, ce sont des gens qui connaissent le sujet.
Oui.
En fait, qu'est-ce que je vois, moi, d'un point de vue extrêmement général, c'est que la question qui a été posée, c'est une question générale qui dépasse peut-être celle de l'industrie minière. C'est la relation entre l'industrie, la population et la représentation démocratique dans les sociétés telles que nous les connaissons. C'est en fait où sont les centres de décision, qui décide, qui a le pouvoir. Donc ça, c'est une question, bien sûr, citoyenne. Et je suis toujours étonné de voir qu'on parle des politiciens comme une sorte de classe, disons, séparée de la population, alors qu'ils devraient rendre des comptes à la population.
Merci, Monsieur Monin. Je passe maintenant, pour ces mots de conclusion, à Bruno Bussière, professeur à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, donc, et titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la restauration des sites miniers abandonnés. Votre conclusion?
J'aurais tendance à aller vers les défis, pas trop regarder en arrière, regarder en avant.
Oui.
Parce qu'il y en a des défis, il faut être conscient, je pense que l'industrie minière en est conscient. Comment, par exemple, réduire les volumes de rejets qu'on produit? Comment réduire le volume de rejets problématiques qu'on produit? Parce que produire une roche de carrière, c'est une chose, mais produire une roche qui contient des sulfures, c'est autre chose. Est-ce qu'on peut bien isoler le problème? Comment intégrer dès le départ l'environnement, c'est-à-dire dès l'exploration à l'exploitation, au traitement de minerais et à la fin, en bout de tuyau? Il faudrait maintenant penser à l'environnement à toutes les étapes, améliorer cette intégration-là. Je pense que ça fait partie des défis que l'industrie minière va devoir relever pour continuer d'améliorer sa performance. Et à mon avis, il y a encore beaucoup de travail à faire.
Il y a encore beaucoup de recherches et beaucoup de sciences et de technologies à faire. Donc, merci, M. Bussière. Je passe à Mme Jacinthe Châteauvert, présidente du Conseil régional de l'environnement. Vos mots de conclusion, Mme Châteauvert?
Bien, l'industrie minière, de plus en plus qu'elle grossit, on a des appareils de plus en plus gros. Si on prend l'exemple de l'exploitation des sables bitumineux dans l'Ouest canadien, moi, à côté de ça, j'ai l'air d'un microbe, là, tellement les camions sont gros. Donc, au niveau de la consommation d'énergie, c'est très différent. Je reconnais, par contre, qu'il y a des industries minières en région qui ont des performances environnementales qui sont très bonnes, qui sont beaucoup meilleures qu'un peu partout. Je pense que toutes les industries minières devraient prendre exemple là-dessus. Puis je reviens à ce que le monsieur disait tout à l'heure. En 2010, il y a encore des ratés. Fait que je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire dans ce style-là. Puis je terminerai avec la modification de la loi sur les mines. Je pense que c'était très important d'intervenir parce qu'il y a des modifications là-dedans. Oui, il y a des modifications sur la loi sur les mines, mais il y a des choses importantes qui ne sont pas inscrites encore là-dedans. Fait que je pense qu'il faut rester vigilant puis participer à la commission parlementaire qui s'en vient sur le développement minier comme citoyen, parce que même si je représente un organisme, je suis citoyenne d'Abitibi-Témiscamingue depuis 48 ans. Je vous dévoile mon âge en même temps. Et je me sens très interpellée, même si je viens pas d'un milieu minier. Mais je pense que c'est important qu'on décide... De la population décide qu'est-ce qu'ils veulent faire. Et c'est là que c'est pas les politiciens, il faut qu'ils décident. C'est nous qui décident et on mentionne aux politiciens qu'est-ce qu'on veut qu'ils fassent pour nous autres.
Merci, Mme Châteauvert. Et pour terminer, Jean-François Doyon, donc, biologie chez Agnico Eagle, où il est responsable du dossier développement durable. Vos mots de conclusion, M. Doyon.
Ben, je vous dirais, on a vu tout le chemin parcouru et toutes les améliorations qu'on a apportées au niveau de la gestion environnementale. L'environnement est pris en compte dès la conception du projet, à l'étape même du développement, ensuite à l'étape de l'exploitation. Et on vise à faire encore mieux demain ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, c'est un défi à poursuivre, à s'améliorer. On va continuer à investir en recherche et développement pour repousser nos performances, repousser les limites des technologies. Et surtout, on va continuer à discuter avec la population, avec les communautés pour essayer de répondre aux attentes encore mieux que ce qu'on fait aujourd'hui.
Je remercie donc nos quatre personnes, ressources, nos quatre invités. Je vous remercie, vous tous, les gens de Rouyn-Noranda, de nous avoir accueillis dans ce bel endroit. Je remercie, bien sûr, les gens du cabaret de la dernière chance et notamment notre ami Gilles Lange, gardien du cabaret en question, qui nous a beaucoup aidé. Je ne sais pas où il est. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Et je vous rappelle qu'il y a un numéro spécial de Québec Science sur la BTB qui est actuellement en kiosque. Merci beaucoup à tous. Bonne fin de soirée et à une prochaine rencontre, à un prochain Bar des Sciences. Merci. Et puis aussi d'autres remerciements à Éric Valois du Cabaret de la Dernière Chance et à Viviane Desbiens du Conseil de développement du loisir scientifique d'Abitibi-Témiscamingue. Les Années Lumière est une réalisation de Dominique Lapointe avec à la technique en studio à Montréal, Patrick Knoop et à Rouyn-Noranda, Dominique Baudouin et Mathieu Dumontier. Journalistes Sophie-André Blondin et Hugues de Roussan, journalistes au site internet Louis-André Bertrand, chroniqueur Rachel Légère. C'est Yannick Villedieu qui vous parle. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition des Années Lumière. Au revoir.